compte parce que j'ai pas mal de bureaux MGE autour de moi et à force de discuter avec eux, je me dis que ça m'aurait vraiment bien.
On va commencer. Donc, on va vous parler de l'exemple du parasitisme au niveau de la gestion raisonnée du parasitisme dans les élevages, ici de petits ruminants, mais aussi au niveau bovin. Donc, pour ça, il y a trois personnes qui vont vous présenter une partie de leur quotidien, de leur travail en rapport avec cet aspect-là. Je vais les laisser se présenter. Il y a Justine Mouget ici à ma droite, il y a Douceline et Jean-Philippe. Voilà, je vous laisse dire quelques mots pour vous présenter.
Bonjour, je m'appelle Justine Mouget. J'ai créé une ferme qui s'appelle la Ferme de l'Espérance où j'élève des brebis, des chèvres, laitières, je les traite, je fais du fromage. Et dès mes débuts en élevage, il y a une douzaine d'années, comme j'étais assez fan de botanique, de plantes médicinales, j'étais curieuse d'essayer en fait d'intégrer cet aspect-là dans les élevages d'abord où je travaillais et ensuite dans mon propre élevage. Et c'est une expérimentation permanente, c'est très intéressant, pas toujours facile à appliquer, mais ce que je souhaite c'est pouvoir diffuser ce que j'ai appris et voilà, c'est tout.
Donc bonjour à tous, moi c'est Douceline, vétérinaire chez Nat Agriwell. Donc deux petits mots sur Nat Agriwell, c'est une ASBL qui s'occupe en gros de faire le lien entre agriculture, environnement et biodiversité. On a pas mal de missions super passionnantes là-bas. Mais une des missions qui m'occupe, c'est de faire de la sensibilisation à la gestion raisonnée du parasitisme auprès des agriculteurs. Surtout les agriculteurs qui s'engagent de façon volontaire pour des mesures en faveur de la biodiversité. En règle générale, c'est en adoptant certaines pratiques, en laissant des zones, des bandes fleuries, etc., etc. Les prairies à haute valeur biologique. Et donc, il fait sens que j'aille près d'eux pour leur dire que éventuellement l'utilisation de certaines molécules peuvent avoir un impact néfaste sur justement la biodiversité, les insectes, etc. Et donc c'est mon rôle, enfin c'est un de mes rôles chez Nat Agriwell, mais c'est en tout cas pour ça que je suis ici aujourd'hui.
Merci. Jean-Philippe de Monti, je suis vétérinaire et je suis passionné par la parasitologie. Et j'ai essayé, parce que j'ai aussi une deuxième casquette, c'est que je suis responsable d'une régionale de Natagora sur le pays de Herve en tant que bénévole, en tant que volontaire. Et donc je suis très sensibilisé à ces problèmes de toxicité des antiparasitaires. Et donc j'ai mis en place au sein de ma clientèle un système de suivi où on les aide à gérer le parasitisme de manière à n'utiliser le plus rarement possible les antiparasitaires. Et quand on doit les utiliser, choisir spécifiquement les molécules les moins toxiques et essayer de voir comment on peut faire l'année suivante pour ne plus en avoir besoin, quoi. Et donc voilà, c'est un petit peu cette dynamique-là que je fais avec quelques-uns des éleveurs de ma clientèle.
Et moi, je vais me présenter aussi. Donc, Cyril Régibaud. Moi, je suis là parce que je suis conseiller technique pour les éleveurs de moutons et chèvres chez Eleveo. C'est sur l'un des éleveurs et c'est une chose qu'on voit de plus en plus depuis plusieurs années, des éleveurs qui s'intéressent vraiment fortement à tout ce qui est prévention au niveau du parasitisme. Donc c'est vraiment quelque chose que je vois chez pas mal d'éleveurs, cette conscience à vraiment travailler sur la prévention. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Donc on va commencer par Douceline qui va nous parler un petit peu de l'intérêt de traiter avec des produits qui soient différents ou moins toxiques pour l'environnement.
Donc tout d'abord, si on est là aujourd'hui, c'est parce que donc il y a ces fameux parasites qui sont des organismes qui se développent, en tout cas qui effectuent une partie de leur cycle au sein de nos animaux d'élevage. Et malheureusement, leur présence au sein de nos animaux d'élevage ont toute une série de répercussions, que ce soit directement sur la santé des animaux, mais aussi du coup sur leur production et donc éventuellement un impact économique. En règle générale, pendant des années et des années, c'était très simple. qui dit parasite dit antiparasitaire, en fait. Et si la chose était si simple que ça, ben, on ne serait pas là aujourd'hui pour en discuter. Et donc, pourquoi est-ce que, en fait, c'est pas aussi simple que ça quand on a un animal ou un troupeau qui est parasité de directement avoir le réflexe antiparasitaire ? C'est pour plusieurs raisons. La première, je pense, qui est celle qui marque le plus, c'est que à force d'utiliser toutes ces molécules à tort et à travers, ou en tout cas de façon systématique, sans trop de poser cette question, on sélectionne des parasites qui sont résistants face à ces molécules. Alors la résistance, c'est un phénomène tout à fait naturel chez nos animaux, enfin chez les parasites. C'est tout simplement des mutations aléatoires. Et malheureusement, quand il y a une pression de sélection qui peut être l'utilisation d'un vermifuge, par exemple, ne vont subsister que les parasites qui ont acquis un gène de résistance. Et c'est là que le problème commence, parce qu'en fait, c'est plus que ceux-là qui se développeront, qui vont se reproduire, qui vont contaminer nos animaux et nos prairies. Et donc, à un moment donné, on risque de se retrouver au pied du mur. Et ce n'est pas juste une perspective catastrophe. En fait, on est déjà, pour certaines molécules, les deux pieds dedans, dans des exploitations où vraiment on remarque des résistances face à telle ou telle molécule, et c'est un réel problème. L'autre chose aussi, c'est que notre arsenal thérapeutique, en fait, on se rend compte que les dernières molécules vermifuges sont apparues dans les années 2009, je pense, pour le dernier. Il n'y a plus de nouvelles molécules qui sont mises sur le marché. Alors, si j'ai des éleveurs en face de moi ou des personnes qui connaissent un peu le domaine, peut-être que votre vétérinaire vous dit « Oh, mais cette année-ci, ou vous entendez parler d'une nouvelle molécule. » En fait, c'est juste un nom commercial. Peut-être qu'ils ont sorti un nouveau format, une solution buvable ou autre chose. Mais il n'y a plus de nouvelles familles, de nouveaux mécanismes qui apparaissent. Et donc, si on ne se pose pas les bonnes questions, tout simplement, en fait, on n'aura plus rien pour traiter nos animaux. Donc, quelque chose sur lequel je veux vraiment insister, c'est qu'on n'est pas en train de vous dire qu'il ne faut plus traiter, il ne faut plus utiliser les vermifuges. Dans certains cas, et Jean-Philippe, je pense que tu en parleras vraiment mieux que moi, on est obligé de traiter et c'est normal. Mais c'est juste que, en fait, si on ne fait pas attention, un jour, quand on voudra traiter, ben, ça ne fonctionnera plus. Donc, il y a l'enjeu, on va dire, des résistances. Pour la faire en synthétique, il y a l'impact, et c'est ça aussi chez Nata Griwal qui nous motive vraiment, c'est que malheureusement, toutes ces molécules peuvent avoir un impact négatif sur la coprofaune, tout simplement parce que c'est des molécules dont les résidus se retrouvent dans les matières fécales, entre autres, de nos animaux domestiques, enfin de nos animaux d'élevage. Et quand la coprofaune, donc les bousiers, etc., vient au niveau de ces matières fécales, malheureusement, s'il y a eu utilisation de certaines molécules, cette coprofaune est mise à mal, voire est complètement tuée. Or, cette coprofaune, elle est vraiment plus que nécessaire, indispensable, pour intégrer les matières fécales au niveau du sol, donc d'un point de vue agronomique, mais pour aussi éviter qu'il y ait trop de refus, pour éviter que ne subsiste justement que la matière fécale ne garde tous ces œufs de parasites, etc. Je pourrais vous parler des heures sur les avantages et ce que font les bousiers pour nous, mais vraiment, cette dégradation des matières fécales, cette intégration des matières organiques dans le sol, c'est vraiment indispensable. Et il n'y a pas que, malheureusement, les bousiers qui sont impactés, parce que quand on s'intéresse un peu à la chaîne trophique, à la chaîne alimentaire, tout ce qui est oiseaux, insectivores, certaines chauves-souris, etc., qui utilisent ces insectes pour se nourrir, mais s'ils ne sont plus là, ceux-ci ne pourront plus survivre aussi. Je passerai le micro à Jean-Philippe pour vous parler un peu justement des chauves-souris juste après. Et je terminerai juste par... Donc on a parlé de l'enjeu des résistances, on a parlé de l'enjeu pour l'environnement, et puis après il y a évidemment aussi un impact économique. Le parasitisme a un gros impact économique au sein d'une exploitation, donc il faut de toute façon faire des choses pour pouvoir pour pouvoir le gérer. Mais le fait d'avoir des résistances, il y a des études qui ont été menées à l'échelle européenne où les coûts liés aux résistances s'élèvent pour 28 pays européens à genre plus de 38 millions par an, des coûts liés à ces parasites résistants. Donc voilà, c'est l'intérêt d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est une problématique un petit peu vaste et qui fait entrer pas mal de choses en perspective. Et donc voilà, un sujet intéressant et passionnant.
Okay. Oui, si on pour parler de l'intérêt des chauves-souris, elles ce sont des insectivores évidemment. En tout cas, toutes les chauves-souris de Belgique sont insectivores. Et il y a une étude qui a été faite avec l'Université de Liège en collaboration avec Natagorin et qui a mis en évidence leur intérêt, notamment une espèce en particulier, le murin à oreiller chancré, qui vient se nourrir dans les étables, au-dessus des vaches, uniquement des vaches et des moutons, etc., et de nos animaux domestiques, des mouches qui les parasitent, quoi. Et donc, ça a été bien mis en évidence. Ils ont un régime très orienté sur les mouches et ils déparasitent le bétail. Donc, ça, c'est aussi une chose importante. Mais je pense que l'utilisation d'antiparasitaires, il y a notamment certains anti-mouches qui sont utilisés régulièrement, qu'on verse sur le dos des animaux, ont vraiment un effet toxique important pour les chauves-souris également. Quoi, voilà. C'était simplement pour parler de la petite précision concernant les chauves-souris. Sinon, au niveau des élevages, une chose qui est vraiment, vraiment importante, c'est de ne pas arriver à vivre au jour le jour avec les parasites et puis se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis alors, on est obligé d'utiliser des antiparasitaires. Ou bien alors, on les utilise de manière préventive. On en met beaucoup pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et puis, le jour où on n'a pas mis son antiparasitaire, ben les bêtes n'étant pas immunisées, eh bien elles vont faire des parasitismes vraiment très, très importants avec des mortalités. Et donc, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de faire de suivre un peu son troupeau sur l'année. Déjà, et ça, c'est un petit peu ce que je fais avec mes éleveurs, c'est de faire une première visite où on va faire le tour de la ferme et surtout de l'exploitation et aussi des prairies, voir la quantité de prairies dont ils disposent en rapport avec le nombre d'animaux qu'il a, et voir un petit peu la charge des pâtures en animaux, et puis aussi repérer les endroits comme les zones humides, par exemple, qui sont souvent des repères pour des endroits qui sont plus dangereux pour la parasite qu'on appelle la douve du foie. Et donc, c'est vraiment important. Je pense que je pense que mon rôle est plutôt d'écouter tout ce que les experts nous disent à propos des parasites et de la prévention, etc. Et puis, d'un autre côté, de retourner auprès de l'éleveur et de dire voilà ton exploitation, voilà comment elle se présente et voilà comment on peut éviter d'utiliser trop d'antiparasitaires, éviter les résistances, etc. Et donc, pratiquement, ce qu'on fait, c'est qu'en début d'année, on fait le tour des pâtures, des prairies, on regarde les zones les plus humides, on essaye de trouver des solutions pour isoler le bétail des parties les plus humides. Et pourquoi pas, quand on a une zone plus humide, pourquoi pas creuser une mare qui permet de vraiment fixer l'eau spécifiquement à un endroit. La mare est extrêmement bénéfique pour la biodiversité. Et alors, rien n'empêche de clôturer cette mare et de ne pas permettre aux animaux d'y aller. Comme ça, on supprime le problème d'ouve du foie, par exemple. Alors, au niveau des pâtures, c'est important de connaître aussi la surface dont on dispose et comment on peut organiser une rotation des pâtures. Parce que l'important dans la prévention pour les parasites, c'est d'essayer de casser le cycle des parasites. Puisqu'un parasite, l'adulte se trouve en général dans l'animal, dans l'intestin, le plus souvent. Et puis, ils pondent ses œufs, il y a des larves qui sont émises, et puis les larves se retrouvent dans le sol, et elles doivent réaliser un cycle de quelques mues pour pouvoir redevenir infestantes et pouvoir être récupérées par le bétail et continuer son cycle. Et si on casse le cycle, c'est-à-dire quand on met trop de temps entre le moment où le bétail est passé et où il va repasser, eh bien les vers et les parasites seront morts, quoi. Les larves, en tout cas, un grand pourcentage de larves seront mortes entre-temps. Et donc, c'est ça que c'est important, de faire une rotation de pâture et de ne pas mettre les animaux en permanence, quoi. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi le fait que les animaux les plus sensibles, ce sont les jeunes animaux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore d'immunité. On considère, par exemple, pour un jeune bovin, par exemple, il faut à peu près 8 mois de contact avec des parasites pour avoir une immunité suffisante. Donc, si les animaux sont allés en prairie, et puis qu'il y a, comme maintenant, par exemple, il y a une période de sécheresse, mais là, il n'y a pas de parasites quasiment, parce qu'ils sont inhibés, ils sont tués en partie, en tout cas, eh bien, il n'y a pas de contact pour le moment. Donc, si même on a laissé 8 mois les animaux en pâture, ils n'auront peut-être eu un contact effectif que pendant 1 mois ou 2. Le reste du temps, c'était de la sécheresse. Et si on a encore mis un antiparasitaire, ben, ça fait encore 2 mois supplémentaires où on supprime le contact. Et donc, c'est ça qu'il faut viser, c'est d'avoir un contact des jeunes animaux avec les parasites et de manière un peu contrôlée, quoi. Voilà. Et donc, un de nos outils de prédilection, ben, c'est de prendre un petit peu de matière fécale des animaux, de les mettre en dessous d'un microscope et puis de compter le nombre de vers qui se trouvent dans ces matières fécales. Et donc, on fait ça 2 à 3 fois par an. Quand les animaux sortent au printemps, ben, 6 à 8 semaines après leur sortie en pâture, on va prélever des matières fécales et on regarde le nombre, on regarde la charge parasitaire. Et si les choses se passent bien, ben on n'a pas besoin de traiter. Si maintenant on a les parasites qui sont explosés, ben on va avoir un risque pour la santé des animaux. Donc on va conseiller à un moment donné un antiparasitaire, quoi. Et donc, voilà, on essaye de ne pas utiliser les molécules les plus toxiques et de les limiter à des moments où elles ne sont pas où on n'est pas dans des périodes à risque pour les insectes. Par exemple, en fin de saison, en automne ou en hiver, il y a moyen d'utiliser un antiparasitaire qui serait plus toxique, mais qui n'a pas vraiment d'effet puisque les animaux sont à l'état, par exemple. Et donc voilà. Donc sur l'année, on va 2 mois après la sortie, on va faire la première coprologie. On appelle ça des copros dans notre jargon. Donc, on regarde ce qu'il y a comme charge de bétail, de parasites. Puis, encore vers le mois de juillet, août. Et puis, si les choses se passent bien et si la rotation a été bonne, ben, en général, si la charge de bétail n'est pas trop importante dans les prairies, eh bien, on peut se passer complètement sur une année. On peut se passer complètement d'antiparasitaires, quoi. Et donc ça, c'est vraiment le but ultime, c'est de parvenir. Ça arrive peut-être une année dans la vie d'un éleveur, mais ça existe, ça arrive. Parfois, une année, on peut se passer complètement d'antiparasitaires. Et puis, il y a des exploitations qui s'y prêtent mieux. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Il faut vraiment voir chaque situation particulière et donc voir un petit peu comment ça se passe chez chacun, quelles sont les prairies humides, les prairies plus sèches. Il y a plein de choses qui entrent en jeu et donc c'est ça l'intérêt de faire un suivi à la carte avec l'éleveur. Voilà, je pense que ici j'ai parlé un petit peu de mon expérience en tant que vétérinaire pour accompagner les éleveurs dans leur cheminement en utilisant moins d'antiparasitaires. Et alors, une chose que je trouve aussi, c'est qu'à un moment donné, quand on est en élevage vraiment intensif, on est face à un mur, quoi. On a beau faire des plans de prévention, on arrive toujours avec des copros qui sont trop importantes et on doit traiter. Et donc finalement, moi, je suis très, très, très mal à l'aise avec ça parce que je me rends compte que finalement, à un moment donné, il y a le système qui doit être changé, quoi. Il y a des exploitations qui ne peuvent plus passer d'antiparasitaires. Et là, moi, j'ai difficile de me retrouver et de leur conseiller telle ou telle monocule parce que de toute façon, à chaque saison, il faut traiter, etc. Et donc, je pense qu'à un moment donné, on se trouve face à un mur. Et là, c'est un petit peu ma déception. Je pensais, avec mon enthousiasme, pouvoir régler les solutions de tout le monde. Mais non, il y a un moment où la charge de bétail fait qu'on est dans une impasse, un cercle vicieux, et on ne sait pas... on ne sait pas en sortir, quoi. Et donc, voilà, je pense qu'il faut favoriser, dans ce cas-là, des systèmes plus extensifs. Mais je sais qu'économiquement, ce n'est pas si facile et que les systèmes extensifs et bio ne sont pas nécessairement suffisamment soutenus au niveau des subsides, etc. Et donc, voilà, là je vois vraiment une impasse pour moi dans ces élevages-là. Et donc, voilà, je pense que... Je vais laisser la parole à une éleveuse qui va pouvoir vous donner un peu son vécu personnel. Hein.
Oui, merci Jean-Philippe. C'est vrai que des choses que tu as dites me donnent envie de rebondir. Tout d'abord, oui, le grand questionnement de jusqu'où on peut prétendre travailler autrement. Voilà, une ferme trop intensive, je suis d'accord, n'aura pas, on va dire, toutes les cartes en main pour pouvoir diminuer ces antiparasitaires. Mais bon, voilà, c'est un problème de société, à chacun de jongler avec ça. Je veux rebondir aussi sur ce qui est l'immunité des animaux, parce que c'est quelque chose, effectivement, que j'essaye beaucoup de travailler chez moi. Le plus possible, ne pas traiter mes jeunes, alors que c'est le lot le plus délicat. Tu parles d'immunité de contact. Je voudrais aussi faire la parenthèse sur le fait que les bovins et les ovins ont une immunité de contact assez intéressante, alors qu'en caprin, on est dans un cas particulier où cette immunité, elle est très aléatoire. C'est pas fonction des races, etc. C'est, voilà, la chèvre est un animal qui n'a pas autant coévolué avec ses parasites, puisqu'elle est plus... De par son évolution, elle est plus cueilleuse que brouteuse. Donc, c'est, même si au début, quand j'ai commencé en caprin, j'aimais cette idée de pouvoir immuniser mes chèvres. Parfois, une chèvre va s'immuniser. Quelques années après, elle va rechuter. On ne comprend pas bien, mais apparemment, elle serait aussi... les parasites auraient plus facile à contourner en plus leur mécanisme d'immunisation. Donc, on n'est pas sauvé en caprin. voilà, mais pour l'élevage de moutons, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on peut compter. Donc, pour autant que les animaux ils sont en contact avec le parasite, mais un contact modéré sur une longue période. Donc, à chaque fois, si moi ça m'arrive de devoir traiter, je suis un peu dégoûtée, j'ai l'impression de remettre un peu ce compteur de l'immunité de contact à zéro, mais quand il faut. Donc, je ne suis pas en zéro traitement, même si c'était mon utopie et mon rêve en me lançant en tant qu'éleveuse. Ce que j'aimerais bien exprimer ici, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a toujours des années, des saisons particulières plus compliquées qui nous obligent à traiter. Il ne faut pas le vivre comme un échec. Hein, je me parle à moi-même. ça arrive, on fait de notre mieux. Mais en utiliser le moins possible, c'est effectivement capital, puisque ces résistances, comme disait Douceline, on est déjà les deux pieds dedans. Il y a des produits qui n'ont quasi plus d'efficacité. On doit garder ça. Voilà. Chez moi, c'est presque de la force majeure, hein, parce que j'essaye vraiment d'être au minimum. Ce n'est pas ce que je conseillerais forcément aux éleveurs. Je conseillerais d'y aller petit à petit, d'essayer de se passer sur tel lot, d'essayer d'être plus sélectif sur j'ai des brebis qui sont en bel état, qui ont un âge déjà, qui sont en âge d'être immunisées. Ben, je peux me dire que ce lot-là, je vérifie avec une copro, mais je peux ne pas les traiter du tout, quoi. il y a aussi des petites choses à savoir. Une brebis maigre, une brebis vieille ou une forte productrice sont des animaux qui vont toujours excréter plus. Donc, faire attention à l'état de nos animaux, comment on les soutient aussi, parce que le parasitisme, qu'est-ce que ça va avoir pour effet ? Ça va créer une fuite des protéines, en fait. Donc, on les nourrit, mais on nourrit les parasites aussi. Donc, il faut avoir conscience que c'est des animaux qui sont affaiblis. Et parfois, une stratégie, même si elle est coûteuse, c'est de compenser en augmentant la ration en protéines pour que l'animal puisse mieux se défendre. Parce qu'en fait, la première arme contre les parasites, c'est l'animal, son immunité. Donc son immunité qui est dépendante de son état de santé, de son état d'engraissement, etc. Donc un animal qui est bien nourri, qui est bien complémenté en oligo, en minéraux, qui a tout ce qu'il faut. Moi, je rajoute aussi des petites cures, des petits drainants du foie avec les plantes, du chlorure de magnésium par cure de 10 jours plusieurs fois par an. Ça, c'est quelque chose assez connu dans le monde de l'élevage. Il ne faut pas se passer de tout ça. Enfin, dans mon cas, en tout cas, je trouve que c'est un peu tout. J'essaye d'être un peu sur tous les fronts. Moi, ma manière de gérer le parasitisme, elle est, voilà, il y a tout ça qui peut être fait en préventif. Dans la mesure du possible, je vais cumuler les différentes manières préventives. Donc, la base, la prévention en pâturage, les rotations. J'essaye aussi que mes parcelles soient fauchées entre deux pâturages, c'est pas toujours facile, et de laisser des temps de repos. Bon, là, dans un contexte, par exemple, les contextes des fermes, ils peuvent changer à tout moment. Comme on voit, en un mois, tout d'un coup, ma ferme, j'ai l'impression que ma ferme correspond à 5 fois plus d'animaux que je n'en ai, mais la situation a été complètement transformée en un mois. Pas de chance. Heureusement, on peut espérer qu'avec les chaleurs sur une herbe courte, ben, les cycles parasitaires sont un peu plus calmes. On peut espérer qu'ils crament, mais voilà, on n'est jamais sûr de rien. Oui, c'est. Je vais essayer de revenir un peu plus centré. Comme je dis, cumuler un maximum de méthodes de prévention. Suivre ces animaux par des copros, ça c'est quelque chose. Je voudrais dire aussi qu'il y a quelque chose que je trouve assez intéressant que l'ARCIA a mis en place, qui s'appelle leur abonnement au suivi parasitaire. C'est pour les ovins caprins. Je ne sais pas s'ils font. Ah, ils font aussi pour les autres. Ok. Donc, avec du conseil, avec des petits rappels de voilà, vous devez faire votre copro du printemps, plus ou moins tel nombre de jours. Ben, on a dit 6-8 semaines après la sortie à l'herbe. Je trouve que c'est une super idée, en tout cas pour tous les éleveurs de Wallonie qui cotisent à Arcia Plus. Vous avez surtout des prix hyper intéressants. Enfin, ça fait des économies parce que c'est toutes ces analyses, en fait, moi j'en ai, c'est quand même mon outil de diagnostic, enfin, comme tous les éleveurs principaux, mais ça a un coût. Et donc, être dans cet abonnement permet bah, déjà de se mettre la rigueur. Hein. Parfois, en début de saison, on se dit ouais, cette année, je ferai bien mes 4 copros. Et puis, on a du boulot. Parfois, on peut switcher, on peut oublier. Ben là, cet abonnement nous permet un petit peu de nous forcer à avoir un suivi. Et donc, qui dit meilleur suivi, dit traitement plus ciblé, puisque tel lot, il n'y a pas de parasites. Je ne vois pas pourquoi je ferais un traitement, puisque Douceline et Jean-Philippe ont exprimé toutes les problématiques de traitement excessif. Donc, voilà comment j'essaye de faire. Et ben je vais laisser mes collègues.
Moi, j'ai des questions à te poser. Il est allumé. Oui. Par rapport à tes pratiques, tu vois, qu'est-ce que tu mets d'autre en place au niveau prévention ? Je sais bien, tu as utilisé pas mal la phytothérapie, l'aromothérapie, de voir un peu comment tu t'es formé à ça, l'intérêt, l'efficacité et les limites aussi de cette approche-là avec tes animaux. Ça fait quand même quelques années que tu pratiques ça.
Que j'essaye, oui. Ça a commencé moi par beaucoup de curiosité. Donc, il y a des livres qui existent français principalement, phytothérapie, aromathérapie. Donc, j'ai fait la curieuse. J'ai pu faire une formation avec Sébastien Knockhart. D'ailleurs, c'est toi, Cyril, qui maintenant est en charge de le faire venir en Belgique. Si vous êtes intéressé, Cyril vous pourra vous. Enfin voilà.
On a réalisé des formations, c'est vrai, ça fait 3 ans qu'on en refait, donc si jamais ça vous intéresse, l'approche phytoaromathérapie, ça se fait une fois par an, souvent début de saison.
Oui. Donc, tous les parasites ne réagissent pas aussi bien aux médecines alternatives. Il y a des cas, je peux citer par exemple le ténia qui réagit très bien à l'ail. Je fais des cures d'ail frais mélangées dans de l'huile d'olive parce que l'huile d'olive, comme la paraffine, paraît-il, va un peu plus loin, va jusqu'au niveau intestinal. Et ça, j'ai remarqué que le ténia, c'était plutôt facile de s'en débarrasser, sauf quand on oublie. Parfois, il se fait oublier pendant plusieurs années parce qu'il a un hôte intermédiaire qui lui permet de rester en dormance dans les pâtures. Paf, il se réveille, j'avais calmé les cures d'ail. Je me suis fait avoir cette année. Il y a des parasites extrêmement pathogènes. Le plus problématique, je pense, dans le monde ovin et caprin, c'est Hemoncus contorsus, qui est un parasite hématophage qui se loge dans la caillette. Donc, il leur bouffe le sang. Il y a des méthodes de diagnostic plus rapides que les copro. Je trouve indispensables. En ovin caprin, ça s'appelle le FAMACHA, c'est le fait de regarder la coloration de la muqueuse oculaire, et donc plus on est pâle, plus on est infesté. C'est pas le seul parasite qui est hématophage, la douve du foie peut faire ça, mais moi, comme l'expliquait Jean-Philippe, il y a une douzaine d'années, avec mon troupeau roux ardennais, j'avais des zones humides, j'avais des problèmes de douve, je ne trouvais pas les plantes et les alternatives pour la déloger. J'ai empêché l'accès aux zones humides. Point. On n'en parle plus, je n'ai plus jamais de douve. C'est dommage parce que c'est pratique d'avoir des points d'eau pour les animaux, mais voilà, je ne voulais pas me traîner la douve d'année en année. Donc, quand on se connaît bien les parasites et leur cycle, on peut, dans le cas de la douve du foie, s'en débarrasser facilement en empêchant l'accès à des zones qui sont humides toute l'année, qui sont vraiment leur foyer de maintien dans les pâtures. Qu'est-ce que j'ai aussi Donc, je pourrais donner le cas particulier aussi des coccidies, qui ne sont pas des parasites à cycle en pâture, mais de ce qu'on a fait comme test à la ferme, sur les conseils de Sébastien, le formateur en aromathérapie, on a testé l'huile essentielle de curcuma. Il y a plein de choses dont on parle pour les coccidies. La base, il faut donner de l'argile à ses agneaux, à ses chevreaux. Les petits en consomment, ça fortifie la barrière intestinale. C'est super. Il y a le vinaigre de cidre. Il y a différentes plantes. Il y a des cures de plantes. Il y a beaucoup de firmes qui font des mélanges en fait étouffés, anticoccidiens. Les jeunes vont consommer d'eux-mêmes ces plantes. C'est super. Nous, on a remarqué que l'huile essentielle de curcuma, chez nous, ça fonctionnait assez bien. Mais cette année, par exemple, j'en ai encore qui traînent. Pourquoi Voilà. Oui, c'est là que j'aurais envie de dire des choses. J'en teste chaque année. Je l'ai fait dans d'autres fermes où je travaillais ou chez moi. On peut difficilement, malheureusement, je vais peut-être en décevoir certains, compter à 100% déjà sur les méthodes alternatives. Et une année n'est pas l'autre. Parfois, on a enfin réussi à bien gérer un parasite. On ne le voit plus trop. Et paf, les conditions météo font qu'il va faire un gros réveil en pâture parce que c'est sale bête. Franchement, on peut dire qu'on peut être passionné de parasitisme, mais en fait, on les déteste un peu. Elles peuvent se réveiller, elles peuvent rentrer en dormance dans l'animal. Pendant l'hiver, elles peuvent rentrer en dormance en pâture. Elles peuvent se réveiller par des déclencheurs météo, chaleur, puis orage, pluie. Tout ça font qu'en fait, c'est difficile de se reposer sur ses acquis. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à bien gérer une année que ça ne va pas déconner l'autre. Mais j'ai envie de dire, courage, petit à petit, en cumulant les méthodes, en se donnant les bonnes pratiques, les trucs qui fonctionnent, et aussi en étant, on va dire, plus on a envie que ça fonctionne sur son élevage, et plus on va développer une connaissance accrue de son troupeau et aussi connaître les signes cliniques précoces. Dès que j'ai le poil qui se pique sur mes chèvres, là, voilà. Mais une brebis, elle a pas c'est pas les mêmes signes sur la laine. Mais ça, pouvoir faire des copros, c'est le dernier truc que je dirais que je trouve vraiment très important, c'est bien mettre en lien les analyses copro qu'on fait à l'état de ces animaux pour se faire l'œil. Parce que d'année en année, on va repérer des petits signes qui sont parfois propres à nos animaux, qui vont faire « c'est probablement un retour de tel parasite parce qu'on les connaît bien et qu'on a fait le lien entre infestation et état et visuel de l'animal. »
J'ai une question pour Douceline par rapport au. On parle aussi, ça fait partie de vos missions, tout ce qui est haies, fourragères, avertus, en théorie, oui ou non, antiparasitaires. Peut-être en dire un petit mot, parce que c'est aussi juste ce que tu as mis en place sur la ferme, Justine. Donc de voir un peu ce qui est un peu comme recul par rapport à ça et l'impact que ça peut avoir, ou ce qu'on peut espérer de ce genre d'aménagement. Hein.
C'est une de mes autres missions chez NatAgriWell, c'est de concevoir des projets de plantation en élevage. Et effectivement, la vertu fourragère des ligneux, c'est quelque chose qui me passionne et je suis amenée à designer justement des haies fourragères. Pour l'aspect antiparasitaire, on sait que pas mal d'essences ligneuses contiennent ce qu'on appelle des tanins. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les tanins condensés, des essences très connues comme par exemple le chêne. Il y en a tout plein, hein, le noisetier en contient, etc. Bref. Il a été démontré scientifiquement que ces tanins condensés extraits de ces ligneux peuvent avoir vraiment des vertus antiparasitaires aussi sur celui qui nous ennuie tout particulièrement, Hemoncus contortus. Notre problème, c'est que c'est surtout des études faites en laboratoire où on part d'un extrait standardisé de tanins condensés, certes issus d'arbres, etc. Mais donc, ce n'est pas du tout ce qu'on va pouvoir faire dans la nature. C'est-à-dire que moi, ma haie fourragère, quand je la design, je ne peux pas aller garantir à l'éleveur que grâce à sa présence, déjà, il faudra le temps qu'elle se développe et tout ça pour qu'elle puisse être consommée, mais que de par sa seule présence, elle va permettre de gérer le parasitisme chez ces animaux. Parce que c'est très complexe, d'une année à l'autre, d'une naissance à l'autre, la teneur en tanin est différente. On ne sait pas si toutes les chèvres vont en consommer de la même façon. Donc je sais bien que ce qui se fait actuellement, c'est on va sur des extraits plus standardisés. Par exemple, le sainfoin, qui n'est pas un ligneux, mais qui contient aussi des tanins, ils en font des bouchons. Et ça, c'est un peu plus facile à objectiver l'effet. Mais moi, je reste convaincue que, et vraiment, c'est ce que tu as partagé, c'est en mettant plusieurs pièces de puzzle les unes à côté des autres, en essayant d'être les plus résilients dans plein de domaines différents, qu'on va pouvoir avoir quelque chose qui tient la route ou en tout cas qui est plus résilient. Et donc, en permettant aux chèvres, on parle des chèvres, mais les brebis en mangent, les vaches en mangent, les chevaux en mangent, bon, dans une proportion diverse, évidemment, mais en leur permettant d'avoir accès à ces différents ligneux, on leur laisse la possibilité d'aller chercher des choses dans leur environnement pour s'automédiquer. Et c'est quelque chose qui est vraiment observé et connu. L'étude de ce comportement porte le super nom de zoopharmacognosie. Vous pourrez le repasser au Scrabble. Mais donc, en fait, on sait que la plupart des animaux sont capables d'aller chercher dans leur environnement des minéraux, des végétaux, etc., pour se soigner. Et en fait, c'est moi, souvent, ce que j'encourage les gens à faire, c'est si tout d'un coup, ils voient, par exemple, des chèvres s'attaquer ou une chèvre s'attaquer à telle essence en particulier, à l'éplucher particulièrement, c'est de faire le travail inverse, c'est d'aller voir, tiens, par exemple, j'avais un exemple de chèvre qui avait bouffé tout un lilas, et c'était de voir, ben, tiens, le lilas, quelles sont ses vertus, là, en regardant un petit peu, drainage hépatique, etc., etc., et il s'avère qu'effectivement, bon, voilà, la chèvre, elle avait une surcharge au niveau hépatique, au niveau digestif, c'était pas dingue, etc. Donc parfois, c'est vraiment ça que j'encourage à faire, c'est en observant son troupeau, en connaissant ses animaux, on parvient à faire certains liens aussi vraiment intéressants.
Une petite chose à rajouter à propos des haies également. C'est sûr que les tanins ont un effet positif, mais il ne faut pas oublier que les haies ne sont pas parasitées. Disons que les parasites tombent par terre au niveau des matières fécales. Et donc, tout ce que l'animal va pouvoir manger en hauteur, même si ce n'est pas spécifiquement antiparasitaire, ben ça a un effet positif par l'effet de dilution. Quoi, parce que par rapport à ce qu'elle va manger, eh bien, cette partie qu'elle va manger dans les haies ne contiendra pas de parasites et donc ça va diluer la charge parasitaire de son alimentation globale. Donc plus ils en mangent, particulièrement les chèvres évidemment, et mieux c'est.
J'avais une question, Jean-Philippe. Tu parlais tout à l'heure de bien connaître nos animaux, faire des coprologies pour savoir avec quels produits traiter. Est-ce qu'une fois qu'on a les résultats de coprologie, c'est très pratique, mais est-ce qu'on va plutôt avoir tendance à traiter tout le lot ou on ne va pas traiter tout le monde ou on va cibler les animaux les plus atteints? Est-ce qu'il y a une logique à avoir en rapport avec ça ou c'est plutôt cas par cas sur le terrain? Comment est-ce que, en bovin, peut-être qu'on est plus cas par cas qu'en ovin, caprin, je ne sais pas, avoir un peu ton avis par rapport à ça, surtout en rapport avec cet aspect résistance et de voir quoi, est-ce qu'il y a un protocole plus adapté pour traiter nos animaux.
Oui, ok. Ben, tu fais bien de poser la question. C'est vrai, c'est vraiment très, très important. C'est le fait de conserver des animaux refuges, quoi. Donc des animaux qui vont conserver certains parasites qui ne seront pas résistants puisqu'ils n'ont pas reçu d'antiparasitaires et qui vont continuer à mettre dans la prairie des parasites non résistants, quoi. Parce que si on traite tout le monde, ben, ce qui va rester dans les animaux, c'est des parasites résistants puisque les autres seront tous crevés. Et donc, ils vont remettre dans la prairie des parasites résistants. Donc il faut des zones refuges, soit des prairies où on ne traite pas, et des animaux qu'on ne traite pas. Mais ça, ce n'est pas toujours évident. Et l'écoprologie nous aide pour ça, parce que la coprologie, non seulement elle vous dit ben oui, il y a des parasites ou pas, elle vous dit aussi le nombre d'œufs par gramme. Et en fonction de la charge parasitaire, ben, on a des seuils. Là, hein, quand on est entre 300 et 500 œufs par gramme, ben, en dessous de 300 œufs par gramme, on ne traite pas. En 300 et 500 œufs par gramme, bien là, on traite sous condition, c'est-à-dire qu'on choisit les animaux on peut choisir les animaux qu'on va traiter, les animaux qui sont les moins beaux, les moins ceux qui ont chez les moutons les arrière-trains qui sont souillés, les animaux qui ont le poil piqué, qui sont un peu plus maigres, bien on va cibler son traitement sur ces animaux-là. Alors maintenant, quand on est au-dessus de 500 œufs par gramme, bien là, on n'a pas le choix, il faut traiter l'ensemble du troupeau. Mais quelque part, quand on est à des taux de 500, 800 et parfois plus haut, ben on est déjà, c'est déjà un échec quelque part. C'est que les stratégies de prévention n'ont pas bien marché. Donc l'idéal, voilà, ces copros-là, ça nous permet de faire du traitement spécifique et de garder des animaux refuges pour les parasites.
Moi, je vais en profiter pour faire un petit quiz pour le public. Parce que justement, Jean-Philippe disait que si tout le troupeau est au-dessus, enfin est fort parasité, alors on traite tout le monde. Petit quiz pour vous. Si je suis amenée à traiter mon lot d'animaux, à quel moment je vais le faire? Donc, ils sont en pâture. Est-ce que du coup, je traite mes animaux sur la pâture qu'ils occupent maintenant? Et puis après, je les change de prairie quelques jours après. Ou est-ce que j'aurais tendance à les traiter, mais à les laisser sur une prairie qui est quand même contaminée? Je ne sais pas si c'est clair. Cyril, n'hésite pas, c'est jamais.
Et donc, soit les animaux sont dans leur parcelle, on les traite et on les change de parcelle, ouais. Ou ils sont sur leur parcelle, on les traite, on les laisse encore là, même si la parcelle est contaminée, et ensuite, quelques jours après, on les change de parcelle. Donc, qui va pour l'option 1, on traite, on change de parcelle.
Sur une parcelle, en disant que la parcelle sur laquelle on les change, c'est une parcelle saine, dans le but qui ne contient peu ou pas de parasites.
Il y a des éleveurs qui servent à la salle. Hein. Donc, on traite et on change de parcelle ou on traite, on reste dans la parcelle? Qui dit option 1, on traite et puis on change de parcelle directement? Qui dirait cette option-là? Oui, mais les animaux sont dans une parcelle, ils sont infestés, vu qu'on fait une copro, on a une raison de traiter, donc les animaux, il y a du parasitisme dans la parcelle, on va traiter nos animaux parce que la coprologie nous dit qu'il faut les traiter, alors on les traite, est-ce qu'on les charge dans la bétaillère, on les charge de parcelle directement, ou on va les laisser quelques jours dans la parcelle et puis on les change? Ça peut avoir quand même de l'impact, hein, donc... On les change. Qui dit on les change tout de suite?
Vous pouvez lever votre main, vous n'êtes pas...
On les change tout de suite? Non, là-bas, on les change quelques jours après. Voilà, bon, Betousseline.
Oui, mais c'était justement dans la réflexion de garder une population de parasites refuges. Si vous faites ce qu'on appelle le dose and move, donc ça veut dire traiter et changer dans une prairie qui est saine, en fait, vous n'allez ensemencer la prairie saine qu'avec des parasites résistants, ceux qui auront résisté aux parasites, aux vermifuges. Donc le but, c'est un peu parfois contre-intuitif, mais c'est de quand même laisser, alors si on a du traiter tout l'eau, les remettre sur une prairie qui est encore contaminée, dont on l'espère de parasites qui seront sensibles aux vermifuges, de façon à avoir cette dilution de parasites résistants dans une population de parasites refuges et sensibles. Voilà.
Je ne sais pas si on a quelque chose à dire, enfin, à ajouter, sinon on peut, on attend vos questions et les échanger avec vous. C'est ça aussi, c'est pour ça aussi qu'on est là.
Est-ce que dans vos pratiques, on peut imaginer un apprentissage des jeunes par rapport au parasitisme par les mères ou par les...
Vous pouvez peut-être un petit peu... Enfin, détailler votre question parce que là, j'ai...
Non, je pense par analogie à quelque chose que j'ai entendu, par exemple, les éleveurs qui mettent en montagne des brebis avec des agneaux, et en fait, elles leur apprennent à pâturer par n'importe où et n'importe comment. Alors, je me disais, est-ce que cet exemple-là, il serait transposable, tenter que les adultes savent choisir de l'antiparasitaire végétal? Ce serait utilisable pour les jeunes.
Alors là, je réponds juste pour la partie ligneuse parce que c'est quelque chose auquel je me suis fort intéressée. Si on réfléchit à la vertu antiparasitaire des ligneux, effectivement, on sait que la consommation de ligneux nécessite un apprentissage. Et donc, de ce côté-là, oui, effectivement, il y a un apprentissage qui peut être mené. Maintenant, par rapport à leur comportement qui impacterait en autre qu'alimentaire le parasitisme. Non, pas vraiment. C'est vraiment l'immunité qui va être déterminante. Et malheureusement, on sait que l'immunité transmise par le colostrum au niveau antiparasitaire n'est pas effective, malheureusement. Elle l'est, alors, le colostrum est vraiment capital pour plein d'autres pathologies, mais malheureusement, pour le parasitisme, ce n'est pas ça qui va nous aider. Donc, c'est plus un travail de l'éleveur de... savoir où il fait pâturer ses animaux, quelle est la jauge d'immunité de son troupeau et de chaque animal, et de mettre en place des pratiques qui va lui permettre de faire développer l'immunité de son troupeau. Et comme le disait Justine, c'est vraiment, en fait, on veut qu'il soit au contact des parasites, mais on ne veut pas suffisamment que pour développer une immunité, mais pas suffisamment que pour développer de la pathologie et avoir l'impact derrière. Donc c'est vraiment tout un travail, et c'est super passionnant. Je pense que Jean-Philippe ne nous dira pas le contraire.
Par contre, il y a un aspect qui peut être lié à la transmission de la mère aux jeunes, c'est l'aspect génétique. On sait qu'on a des animaux qui sont plus sensibles génétiquement à certains parasites ou à certaines pathologies. Donc là, il y a peut-être moyen aussi de creuser un peu cet aspect-là. Mais ce n'est pas la mère qui va apprendre aux jeunes, c'est parce que c'est transmis génétiquement.
Oui, et c'est vrai qu'on a perdu cette résistance aux antiparasitaires dans beaucoup de races bovines, ovines et caprines. Caprins, c'est un peu différent parce qu'ils sont de toute façon pas résistants. Mais chez les bovins, par exemple, Nos bovins ont été abreuvés pendant 40 ans. On a sélectionné sur plein de critères, sur la production, sur les aplombs, etc. Et finalement, la résistance aux parasites, ce n'était pas tellement important parce qu'on avait des antiparasitaires et on les utilisait de manière vraiment inconsidérée. Et donc, ils ont été biberonnés aux antiparasitaires. Et donc, on a tenu compte dans la sélection d'aucun critère de résistance aux parasites, quoi. Et donc, maintenant, bien sûr, les données changent et on commence à avoir des critères de résistance aux parasites dans les sélections, ou bien alors faire des croisements avec des races un peu plus résistantes, quoi.
La petite anecdote, moi, c'est comme ça que je fais un petit peu ma sélection des laitières. Je refais un petit contrôle laitier à ma façon. Donc, très bonne laitière, comportement à la traite. Et mon troisième critère de sélection, c'est comment réagit-elle à mes méthodes alternatives. Une bête qui ne réagit pas du tout aux plantes et qui continue à excréter à l'excès dans les analyses CoPro, c'est absolument à éliminer parce qu'elle nous contamine tous les champs. Parfois, on a des belles bêtes, on ne dirait pas, mais si elles excrètent des œufs par million dans les pâtures et qu'elles réinfestent les autres, bah voilà, ça ne correspond pas. Donc parfois, on a des porteuses saines et parfois, on le voit clairement, celles qui sont porteuses pas saines. Mais ça peut être un critère de sélection. C'est nous qui décidons.
Une chose importante, me semble-t-il aussi, c'est qu'il faut savoir que 80% des parasites sont hébergés par 20% des animaux dans une pâture. Donc, c'est vraiment intéressant. Bon, voilà, c'est cette manière d'agir et de sélectionner et d'éliminer ces animaux qui sont vraiment hypersensibles. Et d'un autre côté, ça justifie aussi le traitement ciblé, le traitement... parce que si on parvient à repérer ces animaux, ces 20% d'animaux, ben on pourrait à la limite ne traiter que ces 20%-là et laisser et foutre la paix aux autres, quoi. Donc voilà, ça c'est une notion qui est importante à savoir aussi en élevage.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, c'est une question. Moi, je la reconnais, je ne suis pas éleveur. Je m'intéresse beaucoup à l'agriculture en général, etc., parce que j'habite dans une région rurale, et pour d'autres raisons aussi. Et quand j'ai lu distraitement l'intitulé de la conférence, je me suis dit, tiens, on va parler de la langue bleue. On va parler de ces maladies-là. Mais ce n'est pas une maladie parasitaire, la langue bleue. Alors, c'est tout à fait autre chose. Donc, on ne parlera pas de tous ces problèmes qu'il y a pour l'instant et qui font l'actualité dans toutes sortes de régions. Ouais. Alors ça, évidemment, je me posais des questions à ce sujet-là, quoi. Mais bon, voilà.
Il fallait faire un choix parce qu'on n'avait qu'une heure et demie. Et donc ici, c'était vraiment pensé plutôt au traitement alternatif. Et le but ici, c'était de vous... Enfin, voilà, on avait justement le cas de Justine pour vous parler de plantes, de phyto, etc. Mais aussi, en fait, dans les traitements alternatifs, il y a tout simplement ne pas traiter ou mieux traiter, se poser les bonnes questions. Et aussi, les mesures... agronomique qu'on a abordé vaguement, hein. C'est un sujet qui nécessiterait encore plusieurs heures facilement, et aussi s'appuyer sur des examens complémentaires. Maintenant, la fièvre catarrhale ovine, si vous voulez en parler ensuite, vous pouvez venir nous trouver, on en parlera bien volontiers.
Oui, juste, c'est vrai que c'est une maladie virale, hein, la langue bleue. Par contre, les vecteurs sont des culicoïdes, sont des animaux. Il y a quand même un aspect parasitisme dans le sens où il y a un insecte vecteur qui transmet ces virus, quoi.
Je peux quand même dire que moi, j'ai eu la chance de pas subir la première vague de FCO. Et je pense que je travaillais tellement sur l'immunité de mes animaux. Notamment, j'avais un retour de piétin. Je galère aussi avec un piétin. Donc, avec mes compléments minéraux oligo, j'y vais sur le zinc, sur l'iode, etc. Enfin, on va dire les oligos spécifiques à l'immunité. Et je pense que c'est parce que j'essayais, on va dire, de stimuler l'immunité sur d'autres problèmes que j'ai réussi à passer un peu plus à côté, quoi. Si... Mais voilà.
Moi, je suis éleveur en bovin et je n'ai pas beaucoup entendu parler avant de passer à la chimie, donc au traitement chimique, toutes les alternatives qui existent pour combattre ou aider les bêtes à se défendre et à gagner en immunité. Parce qu'une vache qui est immunisée, en général, ou une jeune bête de un an et demi, qui est souvent le problème dans nos cas, ce n'est pas les veaux allaitants qui ont ce problème, c'est souvent l'année après, où là, ils se font infester et et comment établir une résistance, et l'accompagnement avec des plantes, le traitement à la pleine lune, toutes ces petites choses-là. Est-ce que vous avez des expériences, des pratiques qui pourraient un peu, qui ont été faites un peu scientifiquement aussi pour connaître l'efficacité de ces, en plus des données agronomiques, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a le pâturage, le tournant, etc., permet déjà une diminution de l'infection, mais un accompagnement par l'homéopathie, la phyto, voilà.
Oui, ben, moi je pense que c'est un petit peu presque à la débrouille, quoi, que moi en tant qu'éleveuse, j'ai les bibliographies, ce que j'ai lu, la formation avec Sébastien, et puis après mes tests, voilà, et c'est erreur. Donc il y a plein de choses. Voilà, qu'on dit par exemple Cinas Pigelia, enfin le duo homéopathique qu'on conseille souvent, bah, jamais j'ai osé me dire je fais que l'homéopathie et je vois comment réagit mon lot, parce que je cumule plusieurs choses. Donc difficile pour moi en tout cas de dire ça c'est sûr que ça marche, ça c'est ça. Donc voilà, une base d'immunité, enfin une alimentation et une complémentation qui permet à l'animal de développer son immunité, c'est bien. Après, moi, je fais aussi des bassins léchés à base de poudre de plantes que maintenant j'achète. J'achète les mélanges de poudre de plantes à thème. Notamment, moi, la firme où j'achète ça, c'est Gentiana, mais il y en a plein. Comptoir des plantes, c'est peut-être un peu cher pour des professionnels, mais il y a plein de firmes qui proposent des solutions comme ça. Donc, des plantes pour stimuler l'immunité, comme l'échinacée et le hétérocoque, etc. Et quand je suis en mode traitement un peu plus curatif, là, je vais essayer avec carrément des huiles essentielles. Par exemple, l'origan est reconnu comme un bon antiparasitaire. Et pour Hémoncus, paraîtrait-il, mais sur des études toujours in vitro, qui sont difficilement prouvables et applicables en élevage, il semblerait que l'association origan avec des cannelles, enfin voilà, différents. Il y a aussi les composés qu'il y aurait dans l'aneth associés avec les composés aussi cannelle. Enfin, tout ça, en fait, ce qui montre, c'est que in vitro, ça peut avoir des effets mesurables exceptionnels, mais in vivo, dans l'animal, est-ce qu'il y a un effet de dilution, que le produit n'est pas assez concentré sur le parasite à tel moment? C'est un peu ce qui a été montré avec les tanins condensés. À un moment, on disait à tout le monde, mettez des plantes à tanins dans tous vos champs, et vous n'aurez plus de problème. Puis après, les études se sont mises à se contredire, et on a dit, bah, il faudrait vraiment que l'agneau il consomme que ça, peut-être 50% de son alimentation, c'est ça, pour qu'on ait une baisse plus ou moins significative. Donc finalement, ce n'est pas la panacée, on change de direction, mais à un moment, on vantait ça à fond. Moi, j'ai l'impression que, ouais, y a un manque d'études fiables, telle association, telle plante fonctionne vraiment. Il y en a qui vont parler de la tanaisie, les graines de courge. Moi, j'ai l'impression qu'il existe plein de choses. Certains élevages vont dire ça marche chez moi, alors que d'autres vont dire bah, j'ai testé, c'est pas la panacée. Une année même, il y a une dizaine d'années, on avait essayé de donner de la terre du diatomé aux chèvres en oral. Et puis, en fait, est-ce que ça fonctionne ou pas? Enfin, y a vraiment... Je trouve que ça gagnerait à avoir qu'on continue en fait les études. Parfois, je tombe sur Internet sur une thèse d'étudiants qui ont essayé de mesurer l'efficacité des huiles essentielles, et souvent les résultats sont un peu décevants. Mais c'est pas pour ça qu'on abandonne et qu'on passe à autre chose et qu'on revient au chimique. On continue à essayer parce que la pharmacopée, elle est quand même large. Et mais voilà, moi, je n'oserais pas dire essayez ça et laissez tomber le chimique et ça va fonctionner. Comme je dis, c'est un tout. Je vois que, par exemple, là où je suis à peu près sûre, ben, c'est que le ténia, ce n'est pas un parasite archipathogène. Et avec l'ail, ben, j'arrive à le gérer correctement. Mais voilà, il y a aussi des bassins alléchés avec beaucoup de promesses. Parfois, ça suffit, parfois pas. Mais voilà, si toi, tu as aussi des retours, peut-être de ton expérience.
Il y a une chose que je peux raconter par rapport à un essai sur les bœufs. C'est le label qu'on avait voulu mettre en place il y a une quinzaine d'années, peut-être même une vingtaine d'années, le bœuf des prairies Gomez. Et on a été accompagné par l'Université de Louvain-la-Neuve. Oui. Et Libramont qui ont fait des suivis de pesée chez les animaux, etc. C'est un peu à la fin que le chercheur qui nous accompagnait donc suivait aussi le parasitisme. Donc ça se faisait à partir du sevrage jusqu'à l'animal fini 2 ans et demi, 3 ans, les génisses pleines ou les bœufs prêts à partir à l'abattoir. Donc il y a eu tout un suivi de croissance, des pratiques d'élevage et des croissances des animaux. Et en parallèle, voir où se trouve le parasitisme dans ces situations-là. Et à un moment donné, il nous explique que l'animal, pour trouver son immunité, doit se faire parasiter, mais qu'à un moment donné, où l'immunité est en train de gagner sur le parasitisme, l'animal maigrit. Et c'est alors qu'on traite. Et il me signale que si on attend encore un peu, comment capter ce moment? Et je viendrai faire des analyses, il en faisait régulièrement, en disant, ben là, on ne sait pas encore, mais il faut encore attendre un peu. Et si je vois une bête qui fond, il me dit, ne la traite pas, attends, je viendrai faire un signal pour te dire où elle en est. Parce que si l'immunité arrive au-dessus de l'infection, elle est partie comme une immunité à vie. Et donc, on a fait ça. Et il y a eu un moment, j'en avais deux qui... oula, je me dis, celle-là, il faut qu'il vienne. Et le lundi, il est venu. Le mardi, j'avais la réponse. Ne fais rien, elles sont bonnes. Mais je trouvais ça intéressant. Et depuis, je dois dire, je n'ai plus utilisé un produit chimique dans ma ferme contre le parasitisme. Mais c'est... Maintenant, voilà, on a eu des années sèches. Mais 2024, par exemple, j'étais quand même un peu inquiet. Mais... De temps en temps, je fais des cures avec l'homéopathie à la pleine lune ou quoi, ou des plantes, mais les plantes, c'est plutôt rare maintenant. Je préfère travailler, c'est plus facile pour moi de travailler avec l'homéopathie, mais oser aller un peu plus loin et attendre que. Et aussi à ce moment, quand on voit, mais ça vous savez, c'est une pratique culturelle, que les animaux commencent à maigrir et avoir une infection importante, enfin qu'on sent que ça, là, il y a des orages au mois de juin, fin juin, début juillet, c'est de les remettre dans une nouvelle prairie qui n'a pas été pâturée, qui a été fauchée. Et là, la prairie est plutôt saine. Et donc, ils vont plus remanger du parasitisme. Et ils vont pouvoir alors plus facilement gagner avant que la prairie ne se réinfecte. En immunité, quoi. C'est des petites choses comme ça, ou les laisser une semaine à l'étable, au foin, ça les aide aussi. C'est cette pratique-là que j'applique, mais voilà, c'est en bovin, hein. On n'est pas dans des situations. Mais voilà, je voulais voir aussi si ça existait dans les autres espèces, et ce suivi de l'immunité du bétail par rapport à l'infection, quoi.
Une petite chose qu'il faut peut-être ajouter, c'est que avant de partir sur des traitements, ben, il faut d'abord s'assurer que l'animal a eu une alimentation qui est suffisamment riche, qui est suffisamment équilibrée et qui est suffisamment diversifiée, parce qu'on est quand même dans plusieurs régions. Vous parliez des prairies Gomez qui ont peut-être la particularité d'être plus riche en différentes espèces, mais plus on a d'espèces. On parlait du concours Quelle est belle ma prairie, là. Ben, c'est pas juste parce qu'elle est belle, la prairie, c'est parce qu'elle est très diversifiée, qu'il y a différentes plantes et que ça permet d'avoir que l'animal puisse avoir une grande variété de sources de d'oligo-éléments, notamment, etc. Et donc, je pense qu'avant de partir sur des compléments, etc., ça c'est certainement indispensable à certains moments, mais il faut pas perdre de vue la base, quoi. C'est une alimentation équilibrée et une prairie diversifiée, mais ça sous-entend une charge de bétail pas trop importante, parce que sinon la diversité biologique des prairies diminue.
Et je rajouterais juste aussi à tout ça, aussi une surveillance des animaux, que ce soit leur connaissance, la météo, savoir la surveillance de leur état corporel, de savoir un petit peu, tel animal, il gère bien alors qu'il n'a pas beaucoup mangé, il est quand même en bel état, etc. Mais aussi tous ces traitements alternatifs ou même les traitements chimiques, on va dire, une épidémiosurveillance, une surveillance grâce aux examens complémentaires, de savoir, ok, j'ai mis ça en place, que ce soit du préventif, des traitements plus alternatifs, mais quand même pas le faire genre comme un cow-boy, les yeux fermés, avec cette fausse impression de peut-être sécurité. Et donc le fait de pouvoir en plus étayer les résultats, les beaux résultats éventuellement de l'ail ou... Enfin, comme tu disais, ben, le fait d'avoir quand même les examens complémentaires derrière, ça permet plus de sécurité et parfois de se dire « Ok, j'ai observé ça, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ben oui, ça fonctionne, j'ai en plus la preuve. » Donc je trouve que ça permet d'avoir vraiment une approche complète et concrète. D'autres questions ? Je voulais aussi juste en profiter pour vous dire que s'il y en a que ça intéresse, j'ai pris les brochures de notre ASBL sur la gestion raisonnée du parasitisme et j'ai repris aussi, on a une page A4 qui reprend en fonction des espèces le classement des différents vermifuges selon leur écotoxicité. Donc ils sont classés en vert, orange et rouge. Rouge, molécules vraiment les plus écotoxiques avec vraiment un impact important. Ces molécules-là, pour vous donner un exemple, sont interdites pour les agriculteurs qui ont certaines prairies qui sont engagées en MC4, donc en prairies de haute valeur biologique. Les animaux qui sont traités avec ces molécules-là ne peuvent plus côtoyer dans l'année ces prairies-là. Donc elles sont près de moi, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Ah oui, et moi j'avais essayé de synthétiser un petit peu ce que j'avais lu et ce que j'avais appris sur ce sujet du parasitisme, donc de la prévention et un petit peu de phytoaroma. On m'avait demandé une intervention avec Terre en vue en décembre. Ce document, il était fait, je me suis dit, si ça intéresse des personnes ici, vous pouvez écrire votre adresse mail et je peux vous envoyer le document. Qui est un résumé personnel un petit peu du préventif et de l'alternatif anti-ruminant en parasitisme.
Ben voilà, s'il n'y a plus trop de questions, bon, on est encore là il y a quelques minutes de toute façon. Et ben, un peu en conclusion, ben, on voit que le parasitisme, c'est une problématique, mais il n'y a pas une solution. Il y a toute une série de leviers à mettre en place, qu'ils soient d'ordre agronomique, de gestion du parcellaire, de gestion d'écoprologie, des molécules qu'on utilise, du préventif. Mais il n'y a pas de solution miracle, mais c'est toutes des choses qui peuvent être en place à l'échelle d'une exploitation et la réalité d'une ferme n'est pas celle d'une autre. Donc voilà, ça reste, il reste quand même une grosse partie aussi de... Juste un petit exemple par rapport à tout ce qui est phytoaromathérapie, mais je me souviens en formation, il y a une pathologie, le vétérinaire dit, voilà, il y a trois huiles qui pourraient fonctionner, mais voilà, il ne sait pas dire laquelle, on va essayer une chez soi. Après trois jours, ça ne change pas, on essaye une autre. Et voilà, certaines huiles vont très bien fonctionner chez quelqu'un, pas chez un autre. Donc ça reste quand même encore très lié vraiment à chaque élevage. Mais il y a quand même beaucoup de pistes et de leviers pour s'en sortir. Voilà, merci beaucoup.